Bon matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toute marque.
Bon matin dimanche, on commence ce jour avec le football et la Ligue 1.
La Ligue 1 avec une journée complète, ça c'est l'avant-dernière journée qui s'est disputée hier avec le match nul de Bordeaux face à Lorient 0-0, victoire de Lyon face à Nantes 3-2, Metz s'impose à domicile face à Angers 1-0, belle victoire de Monaco qui bat Brest et remonte à la deuxième place 4-2 avec un triplé de l'international Ben Yedder. Paris Saint-Germain s'impose à Montpellier 4-0, Lille s'impose également à Nice 3-1, Rennes bat Marseille 2-0, défaite de Saint-Etienne à Reims 2-1, Strasbourg s'impose à Clermont 1-0 et victoire de Lens à 3-1. Juste avant la dernière journée, il n'y a plus de suspense, bien entendu, pour le titre de champion de France, puis remporté pour la 10e fois par le Paris Saint-Germain. Hier soir, le match nul de Bordeaux face à Lorient condamne la seule équipe de Nouvelle-Aquitaine de Ligue 1 à descendre en Ligue 2. Il reste encore du suspense pour les places européennes entre Marseille, Monaco et Rennes, mais aussi en bas de tableau pour savoir qui de Saint-Etienne ou de Metz échouera à la 19e place relégable en Ligue 2 et celle qui jouera le barrage pour tenter de sauver sa tête en Ligue 1 la saison prochaine face à l'équipe d'Auxerre, la 3e de Ligue 2, alors que Toulouse et l'AC Ajaccio évolueront l'an prochain en Ligue 1. Alors nous avons Jean-Paul Michelet qui, outre ses 43 années d'arbitre, est le supporter très fidèle de la Saint-Etienne. Encore des inquiétudes, Jean-Paul, pour tenter de sauver cette place en Ligue 1?
Oui, bien sûr que quand on est 19e, il reste une journée. On va jouer à Nantes, Metz va à Paris. Donc, un nul, ça serait bon, mais ça va être dur. Mauvaise saison.
Alors, croisons les doigts encore avant cette dernière journée. Peut-être que les Verts sauveront leur place dans les toutes dernières minutes.
Espérons.
En Ligue 2 maintenant, comme toutes les rencontres des Chamois à domicile, vous avez pu suivre hier soir en direct, ici même et en intégralité, la rencontre entre les Chamois Niortais et Valenciennes. Un match sans réel enjeu pour les deux équipes, assurées d'une, l'une comme l'autre du maintien dans ce championnat la saison prochaine. Nous retiendrons tout d'abord l'hommage du public à Emiliano Sala à la 9e minute. Nous ne reviendrons pas sur ce qui s'est passé sur la pelouse de Nice en milieu de semaine. Sur l'ensemble de la rencontre hier soir, Niort et Valenciennes ont fait quasiment jeu égal. Les Chamois ont ouvert le score à la 28e minute par Bentil, sa première titularisation d'ailleurs sous les couleurs niortaises en Ligue 2, avant que les Niortais ne soient rejoints au score moins d'une dizaine de minutes plus tard par Bonnet. Les Valenciennois marqueront un second but à la 74e, leur offrant ainsi la victoire 2-1. Une déception que ce score pour l'entraîneur niortais Sébastien Le Sabre, qui aurait bien entendu bien voulu offrir un joli cadeau aux spectateurs pour cette dernière rencontre de la saison, qui plus est à René Gaillard. Sébastien Le Sabre.
On aurait préféré, c'est sûr, hein, s'imposer à domicile, ça aurait été... Mais bon, il faut savoir d'où on part, il faut savoir analyser la situation dans sa globalité, et avec la plus jeune équipe du championnat, il faut féliciter les joueurs, il faut féliciter les joueurs, parce que même ce soir, même si c'est un match, on va dire, de fin de saison, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes nombres de matchs des joueurs, c'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes... Enfin, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte, et avec tous ces paramètres de la saison du championnat dans lequel on a participé, on a atteint l'objectif qui nous était fixé, donc c'est une satisfaction ce soir. Et après, c'est un sentiment un petit peu d'émotion, parce que certains joueurs vont nous quitter, comme chaque fin de saison, et puis le club va continuer avec d'autres joueurs à régénérer, à intégrer. C'est comme ça, c'est la vie d'un club. En tout cas, moi je profite d'être là ce soir pour féliciter vraiment mes joueurs, parce que ils ont eu une progression vraiment fantastique entre l'année dernière et cette année. Et sincèrement, vous savez que chaque match de Ligue 2 est difficile. Le championnat est très très difficile pour des jeunes joueurs. Et avoir atteint l'objectif qu'on nous a fixé en début de saison à 6 journées de la fin, c'est quand même une réussite. C'est ce qu'il faut retenir de cette saison et de ce soir en particulier.
Sébastien Le Sabre, le coach des Chamois, qui ne s'est pas exprimé d'ailleurs sur son avenir. On sait que tacitement, le maintien de l'équipe en Ligue 2 la saison prochaine lui ouvre la possibilité possibilité d'une reconduction de son contrat d'un an, mais qu'en sera-t-il? Le technicien niortais qui a déjà coaché des sélections nationales pourrait peut-être tenter de voler vers d'autres cieux. Affaire à suivre. En tout cas, pour certains joueurs, le match d'hier soir avait une saveur particulière, car il foulait pour la dernière fois la pelouse de René Gaillard. On pense notamment à Dylan Luisser, à qui le public a d'ailleurs rendu un bel hommage. En conférence de presse d'après-match hier, ce dernier n'a pas masqué sa tristesse de quitter les Chamois niortais.
Pour de vrai, je suis triste de partir. Je suis triste de partir parce que c'est les Chamois qui m'ont redonné goût au football. Quand je suis passé par le Havre, je suis sorti d'une saison, c'était très compliqué au Havre pour moi. Donc, je remercie beaucoup M. Hanouna d'avoir cru en moi et de m'avoir donné cette confiance qui m'a vraiment redonné le goût au football, parce que c'était une période vraiment de ma vie très compliquée où je me posais vraiment beaucoup de questions. Et c'est pour ça que là, quand je sais que c'était ma dernière ce soir au stade, c'était... Franchement, c'est compliqué. Je suis triste. Comme on dit souvent ici, c'est vraiment une grande famille. On est là, on rigole tous ensemble, tout le monde se connaît, tout le monde participe au bon fonctionnement du club. Et c'est ça qui fait notre force. Quand on arrive dans un club et qu'on vous dit tu joues comme tu veux, t'es libre, on te met la pression, mais c'est une pression différente. C'est ça qui m'a redonné goût au football. Niort, ça m'a vraiment fait devenir un homme, ça m'a fait grandir dans toutes les perceptions des choses, que ce soit sur mon hygiène de vie, sur mon cadre de vie, sur ma famille aussi. Ça a vraiment été différent ici.
Le désormais ex-chamois Dylan Luisser, également au micro-colline hier soir d'Alexis Denis.
Oui, des Chamois, Patrice, qui malgré tout et malgré cette défaite hier à René Gaillard, ont réussi leur objectif de maintien dans cette Ligue 2. Un club qui va vivre une intersaison importante, puisque l'interrogation de l'avenir de Sébastien Desabre comme coach de l'équipe va sans doute être levée dans les prochaines semaines. Dylan Luisser, le capitaine, est annoncé à Guingamp, et les contrats du gardien Quentin Bratt et du milieu de terrain Quentin Béna, de même que ceux de Gorski et Sissoko, ne seront pas renouvelés. Donc à suivre cette intersaison qui va sans doute être très chaude du côté des Chamois niortais.
Votre regard, Jean-Paul, sur la saison des Chamois, justement.
Moi, je pense qu'ils ont fait une bonne saison. Ils feront leur objectif, ils se maintiennent. Bon, ils n'ont pas un gros budget non plus vis-à-vis des grands clubs comme Toulouse. Donc, moi, je dis c'est bien.
Merci pour ce premier commentaire. La saison prochaine également, bien entendu, vous pourrez suivre en direct ici même toutes les rencontres des Chamois niortais au stade René Gaillard en championnat de National. En fin de semaine dernière, vendredi, les Choletais se sont inclinés lors de la réception de Châteauroux sur le score d'un but à 0, Jean.
Une 13e place, comme pour les Chamois, pour les Choletais, défait donc à domicile pour le dernier match. Une 4e saison maintenant en N1 avec un nouvel entraîneur pour remplacer Richard Désiré qui a été limogé il y a quelques semaines. Comme beaucoup de clubs, là aussi une intersaison importante et toujours agitée du côté de Cholet pour préparer donc la future saison, que ce soit en termes d'effectifs ou de coach pour cette future saison.
Des Choletais qui visaient plus haut dans leur objectif de début de saison. National 2, Les Herbiers et Bergerac, Jean, on fait match nul hier soir à Mubartou.
Oui, un match plus abouti contre le leader de la poule qui se voit d'ailleurs dépassé par l'équipe du Puy qui a battu Chamalières. Il reste deux matchs maintenant pour départager les équipes de tête et celles qui vont être reléguables. Pour le BHF, désormais 8e avec 36 points, un déplacement à Montpellier avant la réception de Chamalières. Puis là aussi, des changements à l'intersaison, puisque l'entraîneur Stéphane Massala est sur le départ et il a été remplacé par Laurent David, qui jusqu'en 2021 entraînait la réserve du Stade Brestois. Et puis nous avons rencontré hier soir le futur président des Herbiers, Dominique Vincendeau, donc au micro de Colline hier soir pour la préparation de cette future saison.
C'est toujours compliqué de perdre un entraîneur qui nous a fait vivre des magnifiques années. Hein, on s'en souviendra tous et je le félicite encore. Et prendre la suite derrière de Michel, c'est compliqué parce que c'est un homme, je dirais, d'expérience, un homme de présence, un homme extraordinaire pour tenir un club. Le club, il est en bonne santé financière. C'était quand même le côté de plus en sortant d'un Covid. On est peut-être l'un des clubs à avoir peut-être plus résisté à cette période. Donc derrière ça, bah, écoutez, il a bien fallu tourner une page. Je voulais absolument tourner la page. Je voulais pas que notre entraîneur revive exactement les mêmes choses qu'avec l'ancien président. Je voulais absolument tourner une page. Et puis après, ben, je me suis ouvert à différentes propositions. Et là, il y avait le choix, beaucoup de choix. On a une très très bonne renommée. Tout le monde souhaite venir travailler chez nous. Et ben, je me suis vraiment allié avec un homme de 50 ans qui vient d'un Breton et qui est surtout pour moi qui a passé dans toute une partie entraîneur des jeunes, 17-19 ans. Ça pour moi c'est très important. Et après qui a été auprès de bons entraîneurs, hein, style Furlan et les autres. Et surtout c'est le fond qui m'intéresse. Après l'homme en lui-même, il nous fera monter, il ne fera pas monter, on avancera, mais c'est le fond, ouais, c'est ce qui m'intéresse, l'homme avant tout. Et j'ai vraiment bien ressenti Laurent David, très très bien ressenti. Nous on est un club vraiment de bénévoles basé là-dessus, c'est toute notre vie. On n'est pas des grands clubs, il faut qu'on revienne un peu sur terre, hein, et puis de faire profiter les jeunes, retravailler le fond, parce que ben, on aime le foot, hein. D'abord, avant tout, on aime le foot.
Quel beau message à Dominique Vincendeau, le nouveau président donc du club Herbreté en National 3 Nouvelle-Aquitaine. Chauvigny s'est imposé face à Châtellerault 1-0. Défaite d'Anglet à domicile face à Bayonne sur le même score, 1-0. Neuville s'est facilement imposé à Cognac, 5-0. L'Escaferré s'impose lors de la réception de Bordeaux, 2-1. La réserve de Niort s'impose sur la pelouse de Libourne, 3-0. Et le Stade Bordelais qui recevait l'équipe de Bressuire. Les Bressurés se sont inclinés 4-3, Jean.
Oui, le FCB, donc, malgré ce bon résultat, malgré tout, c'est le leader, est toujours 12e et donc relégable. Mais il reste deux matchs avec la réception de Lesch-Cap-Ferré, puis le déplacement à Chauvigny pour tenter de rejoindre Châtellerault et éventuellement Lesch-Cap-Ferré. À noter que ce bon résultat face au leader, en attendant donc cet après-midi le résultat à domicile de Tartas aussi, qui est à 2 points du FCB. C'est le Stade Bordelais qui jouera l'an prochain en National 2. Il faudra attendre la dernière journée pour connaître les équipes qui seront relégables en R1, mais tous en hors de selle, bien entendu. On souhaite que Xavier Bonneau réussisse sur le dernier pari. Jean-Paul, c'est important quand même d'avoir une équipe nationale dans notre nord du département.
Ah ben oui, tout à fait. Ça serait malheureux qu'il parte sur un échec, vu le beau travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je lui souhaite de tout cœur de se maintenir. Et à tous les bénévoles de Bressuire.
D'autant plus que je crois savoir que les Bressuire étaient menés 4-0, hein, avant de revenir 4-3. En National 3, Pays de la Loire, Changé s'incline à domicile face à Saumur, 2-1. Victoire du Poiré à Fontenay, 2-1. La Roche-sur-Yon s'impose face à la Châtaigneraie, 4-3. Victoire de Vertou au Mans, 2-0. Pouzauges remporte son match face à Sablé, 2-1. On retiendra également la victoire de Chaland à Sautron, 4-1. Et puis Saint-Philbert s'impose à domicile face à Laval, Jean, sur le score de 2-0.
Oui, rien n'est joué dans cette poule de National 3 entre Saumur et La Roche-sur-Yon, et tout se jouera donc sur le dernier match pour savoir qui de Saumur ou de La Roche jouera l'an prochain en National 2. En bas de tableau, si Sautron est d'ores et déjà condamné, la Châtaigneraie aura beaucoup de difficultés pour se maintenir, tandis que Pouzauges terminera à une bonne 6e ou 7e place en fonction des résultats des derniers matchs et continuera d'évoluer donc en National 3 sous la direction l'année prochaine du Cerisien Cédric Fuseau, qui était reconduit.
En Régional 1, dans la poule 1, Guéret s'impose facilement en recevant Niort-Saint-Florent. Écoutez le score, 7-0. Défaite de l'autre équipe de Sévrienne, Échiré-Saint-Gelais, sur la pelouse de Fétia, sur le score de 3-2, Jean.
Oui, il y a encore quelques matchs en retard et toujours une belle bagarre pour la montée en National 3 entre Guéret, Fétia et La Rochelle. En bas de tableau, les équipes de Sévrienne vont malheureusement se bagarrer pour éviter les trois places relégables, mais ce sera sans doute très difficile.
En Régional 2 maintenant, hier, l'AS Rethèse et Parthenay-Viennet ont fait match nul, un but partout. Victoire du Talus lors de la réception de Nintré sur le score de 2 buts à 1.
Oui, Parthenay-Viennet, depuis ces dernières semaines, est assuré donc de monter en Régional 1 et Effre retrouvera la Régional 3. De l'enjeu pour Miguel-Auxances en grande difficulté, ainsi que pour la réserve de Choret et le CS Nintré sur ces derniers matchs.
À suivre cet après-midi, toujours dans ce même championnat de Régional 2 dans la poule 1, la rencontre d'Effre à domicile face à l'Étoile Maritime. Montcoutan se déplace à Beaumont, la réserve de Choret reçoit Périgny, et puis Miguel-Auxances jouera à domicile face à Saint-Sauveur. En Régional 3 dans la poule 1, les rencontres ont lieu cet après-midi. Aubin-Orthez accueille Saint-Varan-Pierre, Buxerolles face à Thouars, Châtellerault accueille Neuville, Nord 17 sera opposé au Pays de Loing, Saint-Sarbouillet recevra Cerisé et puis Terve accueillera Nieul l'Espoir. Un commentaire Jean sur ce championnat de Régional 3.
Oui, parce qu'il y a deux matchs importants des réserves, celle de Buxerolles qui accueille Thouars et celle de Châtellerault qui accueillera son voisin de Neuville, et ces deux matchs vont décider du vainqueur de ce championnat entre Châtellerault et puis la réserve de Thouars. Tandis que Terve et Nord 17 se retrouveront la prochaine saison en départemental 1.
Toujours en Régional 3 dans la poule B, une seule rencontre intéressée nous intéresse. C'était hier soir, Selveride qui jouait face à Fontaine-le-Comte. Et victoire facile de Selveride, 4 buts à 1.
Oui, Selveride qui était deuxième alors que Fontaine-le-Comte est premier et jouera l'an prochain à l'échelon supérieur. La réserve de Montmorillon descendra à R3. Rien n'est joué entre Entrant, Vic de Gartempe et Saint-Benoît pour l'équipe qui sera reléguée en D1.
À suivre cet après-midi, le déplacement du Pays Mélois à Entrant. Vic sur Gartempe accueillera le Pays Saint-Mexanté. Vouille à domicile sera opposé à Noyer. Toujours en Régional 3 dans la poule C. Match également cet après-midi entre Niort-Saint-Florent et Cabario. Et puis Niort-Saint-Hyguerre recevra l'équipe de La Rochelle.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Sport Matin dimanche, suite avec le football en départemental 1 à suivre cet après-midi. Le match d'Ardin à domicile face à Avenir 79. Bressuire accueillera Saint-Aubin-le-Clou. Frontenay, Saint-Symphorien jouera à la maison face à Vrine. Neuilly-Aubier, la réserve, sera opposée à Chiré-Saint-Gelais, la réserve également. Val accueillera Hervaux-Saint-Juin. Et puis Interbocage sera opposé au Pays Argentonais. Un match qui sera arbitré par Jean-Paul Michelet, notre fil rouge de l'émission. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi l'avoir voulu, Jean-Paul, arbitrer ce match entre Interbocage et Pays Argentonais?
Eh bien, c'est simple. J'ai commencé à arbitrer il y a 43 ans et j'avais fait mon premier match à Argenton-Château. Donc, pour Combran, c'était Joseph Marchand et Jacques Ballet de Combran qui me faisaient l'école, quoi, l'arbitrage. C'est pour leur rendre hommage.
C'est une demande de votre part, une demande qui a été facilement acceptée?
Ah oui, pas de souci. Avec Jean-Luc, très bien.
Parfait, donc on en reparlera de votre carrière en tant qu'arbitre à la fin de l'émission en départemental 2, Poule Nord, Jean.
Alors en départemental 2, dans la Poule Nord, ça va être aussi une journée très importante, puisque Beaulieu-Breuil va recevoir le Pays Tenzéen, la réserve de Cerisay accueille Buchelor, les Portugais Cerisay à domicile joueront contre la réserve de l'Interbocage, Chantou-Courlay-la-Chapelle joueront à domicile contre les Mahorais, Saint-Vincent-Pierget accueillera le leader du Talus, et Vraire-Saint-Léger sera en derby face à Louzy. Le Talus donc a son avenir entre les mains pour accéder à la départementale 1, à condition toutefois de battre Saint-Varan-Pierget. Par contre, s'il y a match nul ou en plus forte raison une défaite, ça pourrait propulser l'AS Portugais de Cerisay en D1, à condition toutefois de battre la réserve de l'Interbocage qui, elle, était relégable en D3. Donc, journée importante pour le classement dans cette départementale 2 dans le nord, dans le sud. Beauvoir accueille Brulin, la réserve d'Effre se déplace au FC Boutonnais, celle de Choret ira à Lezay. Mauzé-sur-le-Mignon à domicile accueillera Val-de-Boutonne. Sud-Gâtine accueillera la crèche. Et puis Val-de-Sèvre accueillera Gatifoot.
On parle maintenant basket à suivre en direct mardi prochain, ici même. Cholet pour le championnat élite sera opposé à Monaco en National 2 masculine. Hier, Mont-de-Marsan accueillait l'AS Niort. Victoire des deux Sévriens, Jean, 88 à 96.
Oui, des deux Sévriens qui terminent à la 10e place de cette poule B de la National 2. Ils continuent donc de jouer à ce niveau l'an prochain. C'est Pornic qui finit en tête de cette poule, tandis que Gardonne et Villeneuve ferment la marche. Donc, très belle année pour l'AS Niort de Christophe Hay. Qui lui restera ou restera pas, nous avait-il dit dans le mois précédent.
Après le basket, le handball en National 1 féminine, les Montcoutantaises s'inclinent de deux petits buts face aux Charentaises d'Angoulême, 23 à 25.
L'équipe féminine de Montcoutant termine à la 7e place malgré cette dernière défaite à domicile, mais une saison réussie pour les Montcoutantaises dans cette poule de National 1. C'est l'équipe de Pessac qui remporte le titre avec 76 points, tandis que Mourinx avec 30 points ferme la marche. Puis un petit clin d'œil personnel à Alexia Genet qui a fait une très belle saison dans cette équipe Montcoutantaise.
En National 1 toujours chez les garçons maintenant, la victoire de Saint-Cyr qui recevait Pouzauge, 33 à 26.
Pouzauge est 8e avec 40 points à une journée de la fin et se maintiendra donc en National 1 pour l'année prochaine. Donc de belles perspectives pour les Pouzaugeais dans cette National 1.
Toujours en handball en National 2 chez les filles, la victoire de Bléré sur Celles-sur-Belle. Les Celloises se sont inclinées sur le score de 28 à 30. En National 3 féminine, dans les play-offs, hier, Bègle s'impose face à Praec 33 à 31. En National 3 masculine, la victoire, courte victoire de Lezay-Celle face au Mans, 23 à 22. On passe au rugby, Jean.
Avec la Coupe d'Europe et la demi-finale qui se déroulera à Lens, aux grandes dames des supporters rochelais, puisque La Rochelle va affronter l'autre équipe française du Racing 92. Alors, quel est le club entre ces deux principaux concurrents et principales équipes du championnat de France ira affronter à Marseille la redoutable équipe de Leinster? Pratiquement, c'est l'équipe d'Irlande qui a dominé hier les Toulousains. Ces Toulousains qui sont tenants du titre et qui sont 5 fois vainqueurs de cette Coupe d'Europe. Un beau challenge pour les Rochelais que de participer peut-être à cette deuxième finale de leur histoire. C'est ce que nous leur souhaitons et ce que souhaiteront tous les supporters rochelais ce soir malgré ce long déplacement à Lens.
Et puis une première à Mauléon le 11 juin prochain. RSE, comprenez, Rorté Sport Endurance, déjà rodé à cette formule à Argenton-les-Vallées, y organisera en effet un raid multisport associant VTT, course à pied et course d'orientation en 4 heures ou 8 heures. L'épreuve est ouverte à tous en duo et il faudra faire preuve de stratégie, comme l'a indiqué à Vincent Nori, l'un des membres organisateurs, Nicolas Talon.
Il y a une grosse partie effectivement de gestion et de stratégie. Parce que on va dire que pour les meilleurs, les habitués, eux ils se posent pas de questions, ils savent que en 8 heures ou en 4 heures, ils vont ramasser toutes les balises. Donc eux, ils se posent aucune question. Pour des gens qui sont un peu plus novices, ils vont être obligés d'avoir une stratégie en se disant voilà, cette balise elle est trop loin sur le parcours, on va pas la chercher parce qu'on va perdre trop de temps. Et donc effectivement, il faut de la stratégie pour arriver à finir. Les coureurs vont avoir jusqu'à une dizaine de supports différents. De support de cartes, puisque tout est en orientation, il n'y a aucun balisage. On voulait aussi que ce raid ait un côté un peu écologique, on voulait pas laisser des rubalises partout dans la nature, donc ça va être un raid complètement à l'orientation, et donc les coureurs auront des cartes à disposition à chaque section. Alors ça sera par deux équipiers, que ça soit sur le 4h ou sur le 8h, et puis pour valider son chrono à la fin, il faut que les deux équipiers finissent en même temps. Alors en fait, chaque équipe va avoir ce qu'on appelle un doigt électronique qui va permettre de valider les balises qui seront sur le parcours. Donc on va retrouver en totalité pas loin de 100 balises, et donc en fait chaque équipe, selon sa stratégie, ira pointer les balises qu'il aura voulu, et puis nous au niveau de l'organisation, on saura quelle équipe équipe est passé à quelle heure et a pointé quelle balise à quel endroit. Et c'est ce qui nous permettra de faire le classement. Alors on aime bien sur les raids vraiment garder le secret jusqu'au dernier moment, mais beaucoup savent qu'il n'y a pas vraiment de surprise. On a fait un teaser, on a fait une vidéo, on sait qu'on va aller en Vendée. Les participants seront assez surpris parce que on a aussi beaucoup de dénivelés dans le Mauléonais. Dès qu'on se rapproche un petit peu du temple, etc. Et je pense que beaucoup vont découvrir des coins qu'ils ne connaissaient pas. Et une petite précision aussi importante, c'est que ce raid, il est vraiment ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que même si on n'est pas un grand sportif, un grand raideur, mais qu'on est, par exemple, qu'on aime faire du VTT, ben c'est complètement abordable puisque chacun aura les choix de faire ce qu'il a envie pendant le raid. Donc du coup, ça permet vraiment que tout le monde puisse le faire.
Ce serait quoi pour vous le RSE, un raid réussi ?
Alors un raid réussi, honnêtement, c'est qu'on ait des retours positifs sur le parcours, déjà ça c'est important, et qu'on n'ait pas de couac dans l'organisation. C'est-à-dire que tout soit bien huilé, qu'au niveau des cartes, au niveau du pointage électronique, parce que c'est on va être à peu près 70 bénévoles, c'est vraiment une grosse organisation. Il faut que tout soit millimétré pour que les coureurs n'attendent pas, pour qu'ils puissent être ravitaillés, etc. Ça c'est vraiment qu'on n'ait pas du tout de retour de ce côté-là, et on l'espère.
Et les inscriptions, sachez-le, pour ce raid multisport qui aura lieu à Mauléon. Je vous le rappelle, départ du château le 11 juin prochain, départ à 10 et 14 heures. Inscription sur le site Time Plus.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La suite de Sport Matin dimanche, Jean, nous parlons maintenant athlétisme.
Oui, avec les gymnasiades qui vont se dérouler tout au long de la semaine à Caen. Donc le SBAC comptera une représentante à ce véritable championnat du monde scolaire. Et Magiquel, désormais junior, qui disputera le 400 mètres. Entre le retour des interclubs le week-end dernier, cette nouvelle sélection et le baccalauréat, une période chargée et passionnante pour Magiquel. Au micro de Vincent Nori avant son départ pour Caen.
Déjà, premiers interclubs avec l'équipe, parce que du coup avec le Covid, on n'a pas pu les faire. J'ai pas pu les faire en tant que cadette, donc c'est une première. Donc avec l'ambiance, tout ça, c'était génial. Et puis gros record. Très surprise aussi du record, parce que je descends de plus d'une seconde mon record de l'année dernière, donc très très contente du record, oui.
Tu te dis surprise, mais t'as quand même fait une bonne prépa.
Oui, mais je voulais pas me mettre dans la tête que j'allais faire un aussi gros record, donc j'étais encore plus contente de voir le chrono sur la borne en arrivant de ma course.
Bon, t'étais annoncée comme favorite, ça t'a fait un peu peur, mais en fait, t'étais bien la favorite.
Ah oui, au début, le speaker qui parle, donc on est là dans les starts, j'attends avec la pression un peu, mais bon, quand la course est lancée, le stress redescend et puis bon, on fait la course et on voit à la fin.
On imagine la joie de vous retrouver parce qu'il y avait aussi Hugo Hay, il y avait aussi Sébastien Michaud, c'était la grande famille du SBAC, quoi.
Oui, c'est ça, avec tout le monde. C'était génial, un bon moment.
Alors, deuxième épreuve, c'est le départ ce week-end, tu seras donc en Normandie.
Oui, je pars samedi 14 pour Paris pour retrouver l'équipe de France et ensuite pour aller à Caen tous ensemble.
Les gymnasiades, tu traduis ?
C'est ça, c'est un peu les championnats du monde de scolaire, ouais, du NSS.
Alors on y va aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a un beau rassemblement, on sait en plus qu'il y a la délégation ukrainienne qui sera présente, et puis tu y vas aussi pour performer ?
Oui, c'est ça, pour performer, pour avoir du niveau aussi. Donc je pense que dans les autres délégations, il y a un certain niveau, comme à Franconville, cet été, j'ai pu voir que dans d'autres pays, le niveau sur 400 mètres était quand même assez élevé. Donc c'est un bon moyen, je pense, de faire un bon chrono aussi.
Les nations concurrentes sont lesquelles ?
Il y a beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 60 nations, donc je sais pas exactement, mais il y a une liste avec toutes les nations sur
Internet. Et toi, tu as pu mesurer c'est où est-ce qu'on court bien le 400 ?
Avec qui j'ai couru à Franconville cet été, il y avait la Belgique, l'Espagne, la Hollande, donc déjà ils avaient des assez gros chronos, donc on va essayer d'approcher leurs chronos. Très bien.
Et là, tu y vas pour combien de temps au gymnasium ?
Je pars une semaine. Donc du 14 au 21.
Avec des qualifs aussi, enfin ça se passera comment ?
C'est mardi 17 mai, je fais des qualifs à 14h20 du 400 mètres. Et puis après, si je suis qualifiée, c'est la course le vendredi 20 mai. à 14h20 aussi.
Bon, tu y vas pas en touriste, hein, tu y vas pour la finale.
Ah oui, il faut aller chercher la finale, oui, c'est l'objectif.
Alors, on parlait de cette belle semaine avec ces interclubs il y a une semaine, ces gymnasiades là, puis entre les deux, il y a eu le bac. Alors, c'était comment?
C'est ça, bah, on se concentre, on fait la part des choses, donc bon, ça s'est passé. Maintenant, bah, focus 400 mètres, et puis après, on recommencera le bac la semaine d'après.
Alors, entre deux échéances sportives, tu t'es entraîné, comment t'as géré ça, ou t'as fait du jus un peu?
Oui, j'ai fait du jus cette semaine surtout, parce que vu que j'avais fait le 400 mètres plus le relais 4x4 dimanche, fallait faire un peu de jus pour être en forme pour cette semaine.
Eh bien, bonne gymnasiade.
Merci beaucoup.
Ouais, j'ai appris il y a un peu plus d'une heure ce que c'est, ça voulait dire faire du jus, genre. Je ne connaissais pas.
Voilà. Et Patrice, un autre athlète fera peut-être du jus aussi. C'est le Niortais Nathan Proust qui disputera également ses gymnasiades puisqu'il participera au concours du javelot.
On passe maintenant à notre invité, Jean-Paul Michelet, qui raccrochera en fin d'après-midi aujourd'hui le sifflet d'arbitre.
Après 43 années d'arbitrage au profit de seulement deux clubs, le Saint-Pierre-des-Chaumbrognes pour débuter, et puis le CO Cerisay Football où je peux en témoigner, Jean-Paul est très apprécié et sera regretté, mais sans doute qu'on le verra sans doute souvent sur les travées du stade Roger Quintin. Alors en fait, deux clubs pour lesquels tu as arbitré, comment en es-tu arrivé à l'arbitrage au tout début?
Eh ben c'est simple, le samedi après-midi, j'arbitrais les minimes à cette époque-là, et le dimanche matin, j'arbitrais les cadets. Et l'après-midi, je jouais en ligue à Saint-Pierre, et un jour, il y a le dirigeant, le secrétaire, il vient me trouver, il me dit: Jean-Paul, ça se passe vraiment bien ton arbitrage, ça te plaît? Je dis oui. Puis il me dit, c'est vrai que t'es, comme joueur, t'es moyen. J'ai dit ça, je l'avoue, pas de souci. Hein. J'avais les pieds carrés. Mais je jouais, comme on n'était pas nombreux à Saint-Pierre, et j'ai joué quand même une année en Ligue. Et suite à ça, je me suis lancé dans l'arbitrage, et puis ça continue tout le temps.
Sans regret?
Ah, sans regret, non. Non, toujours la passion du sport, et je voulais rester dans le foot. Alors, comme joueur...
Aujourd'hui, tu as vu au bout de 43 ans l'évolution de l'arbitrage. On médiatise quelquefois les excès, notamment des joueurs, souvent des spectateurs. Comment analyses-tu en quelque sorte l'évolution qu'il y a eu en 43 ans par rapport à l'ambiance autour des stades et surtout la relation que tu peux avoir avec les joueurs et les dirigeants?
Au départ, il y a une bonne relation. Mais maintenant, c'est les joueurs, ils restent entre eux. C'est tout juste, dès qu'on siffle, allez hop, c'est tout un attroupement. On voit déjà ça à la télé, là, comme le pénalty que Mme Frappard a sifflé en finale de la Coupe de France. D'ailleurs, maintenant, c'est tellement délicat, les règlements aussi. On ne sait plus quand il faut siffler la main ou pas. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une main, soit elle était volontaire ou elle était involontaire. Moins barre. Tandis que maintenant, si aller au corps, si, oh là là, c'est tout un micmac. Même les arbitres, on n'arrive plus à suivre. Ceux qui font le règlement, ils devraient venir arbitrer.
Oui, simplifier les règles.
Ah bah simplifier, oui, parce que pauvre jeune kickband, oui, le week-end dernier, le collègue n'a pas sifflé. Toi, tu siffles aujourd'hui, alors c'est quoi, mettez-vous d'accord. Et c'est vrai que...
Et la relation avec les dirigeants, les coachs
Ça va, moi j'ai toujours été cool, puis je suis toujours cool. Bon, après sur le terrain, c'est lui qui est là, alors attention. Puis après le match, on discute, même ça m'arrive de discuter avec les gars sur le terrain, on n'est pas des gendarmes, faut pas le faire en gendarme.
Vous avez le sentiment qu'on a perdu un petit peu les fondamentaux de ce qu'était l'arbitrage il y a quelques années?
Je trouve, oui, il y a moins de respect, j'en reviens même, tout ce qu'on voit à la télé, vous voyez Paris, dès qu'ils ont une faute contre eux, allez hop, c'est tout un mal. Hop, le pauvre arbitre, on voit pas ça au rugby. Hein. Alors après, les jeunes sur le terrain, ils en font autant, hein, c'est ça le problème, c'est pas des bons exemples.
Alors bien entendu, maintenant il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui peuvent afficher les 43 ans d'arbitrage. Il faut maintenant du renouvellement. Il y avait quelques semaines, on avait Jean-Luc Berthaud là qui nous présenter un petit peu les difficultés pour ce renouvellement. Quels arguments, toi, tu pourrais donner à un jeune pour le convaincre d'aller à l'arbitrage? Il y a un exemple dans au Cerisay, c'est Fridolin Gilles. Comment on peut convaincre des jeunes pour aller vers l'arbitrage, compte tenu quand même des difficultés que ça représente souvent?
Oui, ce qu'il y a maintenant, ils sont accompagnés et ils peuvent jouer et arbitrer. Ce qui fait qu'ils peuvent toujours jouer celui qui aime jouer. Puis après, ben, ils se lancent dans l'arbitrage. Mais il faut vraiment aimer ça. Il faut être costaud. Parce qu'il y a, ils commencent par des jeunes maintenant. Alors c'est bien, ils font des matchs de jeunes. Tandis que nous, quand on commençait, on allait tout de suite en P2. T'allais voir les costauds. Alors soit tu pensais ou tu pensais pas, tu raccrochais tout de suite. La P2, comme on disait autrefois, la fameuse P2.
Et aurais-tu là une anecdote qui t'a frappé?
Oui, j'en ai une. C'était à cette époque-là, j'étais journaliste pour Alouette. Et je vais faire Thouars-Bressuire. Et hop, Jean Chariot, qui était président du district à cette époque-là, était délégué. Et il vient me trouver, il me dit: Jean-Paul, il manque un arbitre, il faudrait que tu fasses une touche. Ah ben, j'ai dit, moi je veux bien, mais j'ai pas d'affaires, il me dit: tracasse-toi pas. 5 minutes après, j'étais habillé, j'étais sur le terrain. Voilà, autrement, ben, j'en ai une autre, ben, c'est à Combran. C'était en excellence à cette époque-là. Et c'était Combran contre Secondigné sur Belle. Et le match commence à se dérouler, impeccable. Premier quart d'heure, il y a un gars de Secondigné qui fait une faute. Bon, je vais lui mettre le carton jaune. Je cherche partout dans mes poches, pas de carton. Bon, après, je lui dis joker. Et après, il y a un gars de Combran qui fait une faute. Bon, ben, j'ai été obligé de lui dire joker.
Joker.
Et à la mi-temps, ça cogne à la porte. Moi, Joseph Marchand qui arrive, avec une feuille de chêne dans les mains. Et puis, il me dit: tiens, Jean-Paul, ça pourra peut-être te servir en deuxième mi-temps. Voilà. Et une troisième aussi qui est pas mal non plus, qui est toujours dans le nord, c'était à Saint-Amand, Mauzé-Thouarsais. Et une action sur le bord où il y a la buvette à Saint-Amand, là au nouveau terrain, il y a un gars de Mauzé, il fait une faute. Bon, ben, je mets la main à la poche, et les supporters de Saint-Amand, ils disent: oh, Jean-Paul, ça mérite pas le jaune. Hop, je sors mon mouchoir de la poche. Tout le monde a rigolé, voilà. C'est des petites anecdotes qu'on a, qui font plaisir.
Mais en même temps, qui détendent l'atmosphère sur le terrain, oui.
Voilà.
Ouais. Et puis, Jean-Paul Michelet, c'est aussi un grand supporter d'un grand club français, la Saint-Étienne. La route de Saint-Étienne, tu dois la connaître dans tous les virages, les côtes et les descentes.
Ah, oui,
raconte-nous un peu cette passion de
Merci. Oui, ben, je suis venu quand j'étais jeune avec la Coupe d'Europe. Donc tout le monde, il y avait Saint-Étienne. Et puis je m'étais à Geoffroy Guichard. Et puis au boulot, un jour, il y a un gars qui me dit: bah, toi qui es stéphanois, tu devras aller à la chapelle du Genet, là, il y a les Verts d'Anjou. Ça, tu vois, comme nom, ça sonne bien, les caps. Bon, ben, j'ai téléphoné, puis il y avait un déplacement à Marseille. Il y avait une place de libre, alors ben, je suis parti, puis depuis, j'y vais souvent.
Toujours fidèle.
Toujours fidèle, alors j'espère que l'année prochaine,
il restera en Ligue 1.
La panthère mangera pour les chamois. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir été notre invité dans ce sport matin dimanche.
Merci Jean-Paul, et puis voilà. Bon match cet après-midi.
Merci.